Un jour historique, les mots d'Emmanuel Macron avant de quitter l'Égypte après avoir participé à un sommet sur la paix à Gaza. Pendant ce temps-là, le Hamas a rendu les otages encore en vie, une libération attendue depuis 738 jours. Le cornu 2 au travail, le chef du gouvernement a invité les ministres à surpasser cette crise politique qui sidère. Un premier conseil des ministres sera convoqué ce soir avant la déclaration de politique générale du premier ministre à minuit, heure de Nouméa la nuit prochaine. Deux motions de censure ont été déposées. La Nouvelle-Calédonie doit être une priorité du gouvernement. Manuel Valls s'exprime après avoir quitté le ministère des Outre-mer. Il appelle les forces politiques à la responsabilité alors que la commission des lois du Sénat commence aujourd'hui l'examen de la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales. Nicolas Sarkozy bientôt derrière les barreaux, le 21 octobre pour être précis. Dans une semaine, l'ancien président sera incarcéré à la santé. Le sport, du football et la France peut se qualifier dès ce matin pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les hommes de Didier Deschamps affrontent l'Islande. C'est mal parti puisque les Bleus sont menés 1-0 à l'approche de la pause. La météo en Nouvelle-Calédonie, ce matin le soleil domine sur l'ouest. Le temps devient plus humide en cours de journée et les nuages prennent souvent l'avantage. Quant aux températures, elles restent élevées, comprises entre 27 et 30 degrés. Localement, 31 à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une de l'actualité internationale.
738 jours dans le noir des tunnels de Gaza, 738 jours de captivité et aujourd'hui le retour à la maison. Les 20 otages vivants détenus par le Hamas ont été remis à Israël cette nuit pour nous. Leur libération s'est faite en deux temps, d'abord avec 7 Israéliens hier, puis 13 autres qui ont été remis à l'armée israélienne. À Tel Aviv, la foule est rassemblée depuis 24 heures maintenant, place des otages. Cyril de la Morinerie, l'envoyé spécial d'Europe 1, a recueilli leurs témoignages.
Oui, on a vécu des scènes de liesse poignantes aujourd'hui à Tel Aviv, des Israéliens sautant de joie, se prenant dans les bras, pleurant de bonheur en regardant en direct sur des écrans géants la libération des 20 otages encore en vie. Je vois beaucoup de sourires ce soir sur cette place. Certains chantent encore. Sarah n'oubliera jamais cette journée historique.
De vivre ça avec eux aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. On ressent l'émotion dans tout le pays. Les gens klaxonnent, manifestent leur joie et c'est un sentiment extraordinaire.
Et ils sont venus par milliers au centre de Tel Aviv pour vivre un moment de communion intense. Des familles, certains avec leurs jeunes enfants, des étudiants, des célibataires, des soldats, des touristes, des rabbins et tant d'autres. Emmanuel est impressionné par cette communion fraternelle.
Et cette unité-là, aujourd'hui, on l'a sentie. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Il n'y avait pas ni de gauche ni de droite. On était tous ensemble pour nos khatoufim, pour les otages.
Mais les sentiments oscillent entre joie et peine. Certains otages ne reviendront jamais des tunnels lugubres de Gaza, rappelle Chabi.
D'un côté, on est très heureux d'avoir nos otages de retour, ou plutôt en bonne santé apparemment. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler qu'il nous manque encore des corps d'otages. Beaucoup ne pourront pas revenir à la maison. La visite de Donald Trump permet à Israël d'envisager l'avenir sereinement.
Donald Trump est reparti d'Israël. Le président américain a tracé un nouveau chemin plein d'espérance pour ce peuple israélien meurtri par deux années de guerre.
Et encore 24 otages déclarés morts doivent être remis par le Hamas aux autorités israéliennes aujourd'hui. Quatre corps ont déjà été rendus à l'État hébreu ce matin pour nous. Alors Donald Trump, on le disait, l'artisan de cette libération, était à Jérusalem ce matin. Le président américain a tenu un long discours devant la Knesset, le Parlement israélien, aux côtés de Benjamin Netanyahou. Il a promis la fin de la terreur avec de nouvelles perspectives pour Gaza.
Nous avons tous conclu que le soutien envers Gaza doit être fait pour élever les gens eux-mêmes. Mais nous ne voulons pas financer ce qui a à voir avec la haine ou la terreur comme cela s'est passé dans le passé. Et pour la même raison, nous avons aussi conclu que Gaza doit être démilitarisé et qu'une nouvelle force civile et policière doit être créée pour des conditions sûres pour les gens de Gaza. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai l'intention d'être un partenaire pour sécuriser un meilleur futur. C'est un endroit très important dans le monde. Tellement de gens ont dit que la Troisième Guerre mondiale allait commencer dans le Moyen-Orient. Ça ne va pas se passer.
Donald Trump qui estime qu'Israël a gagné la guerre sur le champ de bataille. Il a assuré que la sécurité d'Israël ne sera plus menacée sous quelque forme que ce soit. Fin de citation. Il est 6h35, vous écoutez Radio Rythme Bleu. Une première pause dans ce journal avant de voir la mise en place du gouvernement Le Cornu 2 qui est déjà menacé par deux motions de censure.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'Internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Jeu réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
Ensemble pour l'eau, bâtissons la réglementation de demain. La loi du pays sur le domaine public de l'eau et la protection de la ressource est adoptée. Œuvrons à sa mise en œuvre lors du Forum de l'eau 2025. Adaptez-la à vos réalités locales. Répondez à la consultation publique sur son arrêté d'application. Partagez vos propositions en atelier thématique les 21-22 octobre à Koné, les 28-29 à Nouméa et en plénière le 6 novembre au Centre culturel Tchibaou. Inscrivez-vous pour participer. Toute l'info sur eau.nc ou au 25 51 12. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité politique nationale et le nouveau gouvernement qui était réuni cette nuit à Matignon pour une réunion de travail. Alors comme il est déjà menacé de censure, Sébastien Lecornu a fixé un seul cap, surpasser la crise politique et faire bouger les lignes.
Notre seul objectif et seule mission est évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique dans laquelle nous nous trouvons et qui sidère une partie de nos concitoyennes, nos concitoyens, qui peut aussi sidérer une partie du monde qui nous regarde.
Sébastien Lecornu qui a appelé les ministres à mettre leur ego de côté et à incarner trois mots, liberté, humilité et exemplarité. Demain, le Conseil des ministres se réunira pour la première fois. Il y aura surtout la déclaration de politique générale du chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Ce sera à minuit, heure de Nouméa. Deux motions de censure sont d'ores et déjà déposées. Et c'est au cours de cette prise de parole que le Premier ministre pourrait dévoiler son choix concernant la question d'une suspension de la réforme des retraites, ce qui déterminera le vote du Parti socialiste. Alors, pas de passation de pouvoir cette nuit entre les anciens et les nouveaux ministres, conformément à l'exigence de sobriété voulue par Sébastien Lecornu. Mais Bruno Retailleau, qui a quitté le gouvernement, a malgré tout tenu à s'adresser à ses équipes et à faire passer quelques messages. L'ancien ministre de l'Intérieur a notamment défendu son bilan et donné des perspectives pour la suite. Alexandre Chauveau.
Oui, discours d'adieu aux policiers et gendarmes qu'il a dirigé pendant un peu plus d'un an. Le plus grand honneur de toute ma vie, a déclaré ému Bruno Retailleau face à ce qu'il appelle la grande famille du ministère de l'Intérieur.
J'ai beaucoup aimé cette maison, la droiture qui la tient, le courage qui l'habite, les hommes et les femmes qui la servent.
Bruno Retailleau qui défend le bilan de ses 12 mois place Beauvau, en dépit d'une assemblée sans majorité et d'un gouvernement qui ne partageait pas toutes ses visions. Il se félicite ainsi du vote de la loi contre le narcotrafic, mais aussi de l'augmentation des expulsions et de la baisse des régularisations, et promet, malgré son départ, de continuer à défendre ses idées.
J'ai décidé, il y a un peu plus de 12 mois, d'entrer au gouvernement. Je l'ai fait librement. Et aujourd'hui, c'est tout aussi librement que je quitte notre ministère. Mais je continuerai à servir notre pays, notre nation, notre peuple, tout aussi librement, mais autrement.
Une manière pour Bruno Retailleau d'entretenir le flou sur son avenir politique, lui à qui certains prédisaient un destin présidentiel, mais qui a déjà fort à faire aujourd'hui comme patron des Républicains.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. C'est donc un gouvernement de mission pour donner un budget à la France avant la fin de l'année. C'est en tout cas ainsi que Sébastien Lecornu a présenté hier le gouvernement qu'il a constitué deux jours exactement après sa reconduction à Matignon. On relève le départ de Manuel Valls et l'arrivée rue Oudinot de Naïma Moutchou, la nouvelle ministre des Outre-mer. Le Premier ministre a demandé des passations de pouvoir sobres, sans presse. C'est donc sur Instagram que Manuel Valls a fait ses au revoir aux Outre-mer. Il dit quitter sans regret le gouvernement, mais être triste de quitter cette mission passionnante, exaltante d'assumer les politiques publiques vers les Outre-mer. Et il a débuté son propos par la Nouvelle-Calédonie, et notamment l'accord de Bougival.
La Nouvelle-Calédonie doit être la priorité absolue du gouvernement. Tant ce que nous avons construit là-bas est aussi fragile que précieux. La situation dans cet archipel de l'océan Pacifique reste un sujet de préoccupation majeure. Après les violences de mai 2024, qui auraient pu être évitées, et qui ont fracturé la société calédonienne et amplifié le marasme économique et financier, un nouvel accord global, porteur de stabilité, a été signé, l'accord de Bougival. Le risque d'une remise en cause de l'accord existe. Elle serait un frein à la reconstruction économique, sociale et financière, et elle mettrait en cause les projets de reprise des usines qui exploitent le nickel. La Nouvelle-Calédonie pourrait alors replonger dans le chaos et la violence. Ce que nous avons réussi à faire sur la Nouvelle-Calédonie, contre toute attente, contre bien des obstacles, est due à un haut niveau de portage politique. Et je pense à cet instant à Michel Rocard et à Lionel Jospin. J'appelle l'ensemble des forces politiques à la responsabilité, à Paris comme à Nouméa.
Voilà pour ces propos de Manuel Valls qui s'exprimait sur son compte Instagram et qui est donc remplacé par Naïma Moutchou, la nouvelle ministre des Outre-mer. Âgée de 44 ans, elle est avocate et députée Horizon. Elle a brièvement été ministre de la fonction publique dans le premier gouvernement Le Cornu. Sa nomination est plutôt bien accueillie en Nouvelle-Calédonie. Vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions la réaction de Sonia Backès, la chef de file des loyalistes, qui se félicite de la nomination de Naïma Moutchou. Elle souligne que le dossier calédonien sera de toute façon suivi par au moins trois ministres, avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer. Vous avez pu entendre également la satisfaction du député Nicolas Metzdorf, qui connaît bien Naïma Moutchou, avec laquelle il a siégé à l'Assemblée nationale. Chez les indépendantistes maintenant, la réaction du Palika, qui a quelques interrogations, Elisabeth Noir.
Il reste engagé dans le processus de Bougival, mais il regrette le départ de Manuel Valls. C'est ce que nous a dit l'un de ses porte-parole, jeudi, Kael Selefen.
Comme tous les Calédoniens et tous les Français, on a suivi un peu les péripéties du gouvernement central, puis la chute du gouvernement Guéraud. Donc ce qu'on peut dire, nous, là, à ce stade, c'est déjà l'annonce du remplacement de M. Valls. On tenait à saluer le travail qu'il a effectué en tant que ministre des Outre-mer. Ça n'a pas été simple, mais il a quand même permis d'aboutir à un compromis politique. Donc sur la nomination, bah, c'est une personnalité qu'on connaît très peu, voire pas du tout. Et donc, on a quand même des craintes par rapport à ce changement et on s'interroge sur la conduite de la suite en termes de méthode et d'organisation.
Des interrogations sur la méthode, donc le Palika tient à saluer la méthode Valls et il craint que les choses ne soient encore plus compliquées désormais.
On a pu observer, en tout cas, la méthode Valls et les modalités de discussion que M. Valls a mis en œuvre a quand même permis d'aboutir à un accord dans un contexte local qui était difficile et un contexte national frappé d'une grande instabilité. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'à un compromis politique. Aujourd'hui, la situation locale s'est quand même aggravée. La situation nationale, c'est encore pire, avec très peu de perspectives, beaucoup d'incertitudes. Donc on se pose la question, pourquoi changer un ministre qui a quand même fait du bon travail dans un contexte encore plus difficile? On pense que ça va être encore plus compliqué qu'avant.
Mais le Palika reste engagé dans l'accord de Bougival et il attend des précisions de la part de la nouvelle ministre en charge du dossier.
Ça sera au ministre en charge de nous dire c'est quoi la suite. En tout cas, pour l'heure, nous, on est toujours engagés pour la poursuite du portage de cet accord. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'information. En tout cas, les enjeux sont connus, liés à l'accord. Mais la nouvelle ministre en charge devra nous dire la position de l'État et surtout la méthode de travail à compter d'aujourd'hui.
Je dis qu'elle, c'est les fins porte-parole du Palika.
Et dans ce contexte, c'est donc ce mardi à 14h, heure de Paris, 23h pour nous, que la commission des lois du Sénat doit se réunir pour examiner la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales, Elisabeth.
Cela fait suite à la demande faite vendredi par le gouvernement démissionnaire d'inscrire en urgence à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement des membres du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025. Un report essentiel, vous le savez, pour mettre en place l'accord de Bougival et éviter que ces provinciales se déroulent avant la fin du mois de novembre avec un corps électoral gelé. Les services du Sénat ont convoqué pour mardi et mercredi des réunions de la commission des lois pour examiner le texte en urgence. Il sera ensuite examiné en séance publique à partir de mercredi après-midi selon le calendrier prévisionnel du Sénat. La proposition de loi organique sera ensuite transmise à l'Assemblée nationale et la loi devrait être promulguée avant le 2 novembre. À la veille de cet examen, le président du FLNKS, Christian Théin, adresse une lettre ouverte aux parlementaires de la République française pour leur demander solennellement de rejeter cette proposition de loi organique. Il écrit, et je cite, que ce texte en apparence technique serait en réalité une régression politique majeure. Il mettrait fin unilatéralement au processus de décolonisation engagé par l'accord de Nouméa et reconnu par la France en contradiction avec le droit international et des engagements solennels de la République. Une lettre de 4 pages dans laquelle Christian Théin n'hésite pas à faire le parallèle avec la situation de mai 2024 pour dire aux parlementaires qu'une fois encore, ils sont mal informés de la situation calédonienne. Il prétend qu'imposer le projet d'accord de Bougival et retarder les élections, c'est prendre le risque de répéter les erreurs du passé. Et il affirme qu'une seule voie est possible, une issue politique négociée avec le FLNKS pour l'indépendance. Des arguments auxquels ne devrait pas être sensible la majorité des sénateurs. Mais le débat à l'Assemblée nationale s'annonce d'ores et déjà plus tendu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord. 87% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la reconduction de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Ils sont 13% à dire qu'ils ne l'approuvent pas. Voici maintenant notre question du jour. Regrettez-vous que Manuel Valls ne soit plus ministre des Outre-mer? Si vous le regrettez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Toujours dans les gros titres de l'actualité nationale, 2 semaines après sa condamnation dans l'affaire dite du financement libyen, Nicolas Sarkozy connaît désormais la date et le lieu de son incarcération. Ce sera le 21 octobre, le mardi de la semaine prochaine, à la prison de la Santé à Paris. Cette date a été fixée lors d'une convocation hier soir pour nous au parquet national financier. L'ancien président de la République sera seul en cellule. William Molinier du service police-justice d'Europe.
Pour sa propre sécurité, une précaution prise par l'administration pénitentiaire pour éviter que d'autres détenus ne s'en prennent à lui. Cette cellule fait 9 mètres carrés. On y trouve un lit, des toilettes, un téléphone aussi. Il pourra appeler uniquement quelques numéros, tous validés au préalable par l'administration pénitentiaire. L'ancien président aura le droit d'aller en promenade, mais uniquement seul, à raison de 2 fois par jour. Il aura aussi accès à 3 parloirs par semaine avec ses proches. Dès qu'il aura mis le pied en détention, ses avocats pourront alors formellement déposer une demande de remise en liberté. Selon les informations d'Europe 1, les 2 autres détenus dans ce dossier, Alexandre Djouri et Waïb Nasser, n'ont toujours pas eu de date d'audience car le dossier qui se trouve physiquement au tribunal correctionnel des Batignolles n'a pas encore été transmis à la cour d'appel sur l'île de la Cité. En théorie, une demande de remise en liberté doit être examinée sous 2 mois. Mais tout l'enjeu pour la défense de Nicolas Sarkozy est d'obtenir une date la plus proche possible du 21 octobre prochain.
Je rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs avec exécution provisoire. L'ancien chef de l'État a fait appel de cette décision. Et on termine avec vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, de retour de New York où elle a pétitionné devant la 4e commission de décolonisation de l'ONU. C'est Naya Watéou qui sera notre invitée du matin. Elle reviendra sur le message qu'elle a transmis en compagnie de Marie-Laure Kéoué et sur la façon dont leurs interventions ont été accueillies. Elle sera aussi interrogée sur le discours tenu par les autres pétitionnaires. Naya Watéou, invitée du matin, c'est à suivre à partir de 7h30. Et puis dans notre magazine citoyen, à la mi-journée, nous nous intéresserons au mentorat. 26 jeunes de 5e, 4e et 3e sont engagés dans ce dispositif de la province sud. Il consiste à mettre en lien un jeune et un mentor bénévole du monde professionnel qui se rencontrent une fois par mois. Le salarié ou le chef d'entreprise fait découvrir au collégien son métier et l'encourage aussi à croire en lui et à développer son potentiel. Pour en parler, nous recevrons Gilles Brial, le 2e vice-président de la province sud, en charge notamment de l'enseignement. Christelle Berger, chargée de mission reconversion et mentorat à la province sud. Cécile Chamboredon, directrice adjointe de la SECAL, nouvellement mentor. Et Joyce, élève en 3e, qui bénéficie du mentorat depuis 2 ans. Un magazine citoyen consacré au mentorat à retrouver juste après notre journal de la mi-journée. Il est 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal et ensuite le point sur l'enquête après l'incendie d'un lieu de culte hier matin au Mont d'Or Sud.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Ils étaient 2000 il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que 400 dugongs en Nouvelle-Calédonie. Braconnage, collision avec les bateaux, prise dans les filets, destruction des herbiers. Nos dugongs disparaissent, lentement, sous nos yeux. Il n'est pas trop tard pour les sauver, mais il faut agir maintenant. Si vous voyez un dugong mort ou échoué, appelez le 16. Et si vous êtes témoin d'un acte de braconnage, appelez le 17. Ceci est un message du plan d'action dugong piloté par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, financé par l'État par le biais du Fonds vert et du programme France Nation Verte.
Avec Magie, du 1er septembre au 31 octobre, tente de remporter 2 millions de francs en bon d'achat. Achète un paquet de nouilles Magie et si tu as de la chance, tu y trouveras un paquet gagnant. Tu peux aussi jouer gratuitement chez Nestlé NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Maître Citrita.
Entrepreneurs, du 21 au 24 octobre, la CCI Nouvelle-Calédonie vous donne rendez-vous pour la Digital Week, un événement inédit pour accélérer la transformation digitale de votre entreprise. Venez rencontrer les exposants et découvrir leurs solutions digitales, assister à des conférences et ateliers concrets et échanger avec un conseiller digital CCI à la CCI de Nouméa, 15 rue de Verdun. Infos et programmes sur www.cci.nc. Digital Week, le numérique au service des entreprises calédoniennes.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité sur le territoire, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et une enquête en cours après l'incendie tôt hier matin du local de l'église des Saints des Derniers Jours au Vallon d'Or. Les sapeurs-pompiers du Mont d'Or ont été alertés aux alentours de 4h du matin. Le bâtiment, qui ne s'est pas effondré, a été entièrement détruit malgré l'intervention des 8 soldats du feu qui ont été sécurisés par les gendarmes. Jean-Olivier Smati est le président de l'église des Saints des Derniers Jours.
La première réaction, forcément, c'est une réaction de sidération, de tristesse, de regret. L'église est là depuis maintenant de nombreuses années. Elle a pour vocation de faire du bien autour, elle a pour vocation d'apporter un message de paix, de partage, de compréhension, et ce qu'on a vécu est le contraire en fait de ce message-là. Et donc, on est affecté, mais on n'est pas accablé. On est triste, mais on n'est pas désespéré. On reste confiant, on va aller de l'avant, on va continuer à aller de l'avant avec foi et confiance dans l'avenir.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Une enquête a donc été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Nouméa pour des chefs de destruction par incendie de biens cultuels, violence aggravée sur des gendarmes, outrage, rébellion et entrave à la circulation sur la voie publique. Charlotte Coulson.
Pour les faits de la destruction par incendie de biens culturels, le procureur de la République, Yves Dupas, indique dans un communiqué qu'il ressort des premières investigations que l'hypothèse d'un incendie d'origine criminelle est privilégiée au vu des constatations faites par les techniciens d'identification criminelle. Toutes les vitres du bâtiment ont été dégradées, ce qui a permis aux auteurs présumés de s'introduire dans les lieux. En outre, écrit encore Yves Dupas, deux départs de feu ont été localisés aux deux extrémités de la salle principale du bâtiment. Des traces de sang ont par ailleurs été prélevées. Elles sont actuellement en cours d'exploitation. Pour les autres faits, le procureur de la République indique que des gendarmes mobiles qui intervenaient pour sécuriser l'action des pompiers au moment de l'incendie avaient été victimes de projections de pierres de la part d'un groupe d'individus. Yves Dupas qui indique également que dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit, dans ce secteur, les gendarmes mobiles avaient déjà subi un premier caillassage accompagné d'une entrave sur la voie publique au moyen de branchages incendiés par un groupe d'une dizaine de personnes. Deux personnes, un majeur et un mineur de 17 ans fortement alcoolisés, ont été interpellés et placés en garde à vue. À ce stade de l'enquête, écrit enfin Yves Dupas, trois autres auteurs présumés ont d'ores et déjà été identifiés. Ils sont recherchés par les gendarmes, trois personnes qui auraient trouvé refuge au sein de la tribu de Saint-Louis.
Et quant au feu de brousse de Païta, il est maîtrisé mais toujours sous surveillance. Je rappelle que le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 a été déclenché dimanche. Hier, les conditions météo étaient plus favorables et les efforts de la sécurité civile ont porté leurs fruits. Deux véhicules étaient toujours mobilisés cette nuit. Au total, 400 hectares ont été détruits par les flammes.
Radio Rythme Bleu, 6h53.
Et si votre prochaine expérience de voyage se déroulait en Nouvelle-Calédonie ? C'est le message qui sera bientôt adressé aux téléspectateurs métropolitains. Depuis une semaine maintenant, une animatrice et un producteur du groupe M6 sont sur le territoire. Ils parcourent l'archipel, caméra en main, pour promouvoir la destination auprès de potentiels voyageurs, Charlotte.
La Minute Voyage, c'est le nom de cette émission lancée l'année dernière sur toutes les chaînes du groupe M6. Un format court, une minute comme son nom l'indique, pour découvrir une activité dans un lieu touristique. Stéphanie Valton, animatrice de l'émission, et Julien Kériuel, son producteur, ont été invités par Nouvelle-Calédonie Tourisme sur le territoire pour promouvoir la destination. Pour ce faire, NCT, en partenariat avec Air Calin et Atout France, leur ont préparé un programme dense du nord au sud, de l'est à l'ouest. De quoi faire un tour complet du potentiel touristique de la Calédonie.
On a commencé sur l'île des Pins, on est revenu sur Nouméa, on s'est promené dans le lagon avec du snorkeling, on est allé surtout dans le nord de l'île. On a fait une expérience en tribu dans la vallée de Chamba, puis ensuite chez les Broussards. Donc on commence à avoir un panorama qui est extrêmement vaste et complet. On a fait le cœur de vent en gyrocoptère, le bac de la YM, qui était nous un petit coup de cœur. Et donc là, on continue les expériences avec le Grand Sud, avec le parc de la Rivière Bleue, puis Nouméa là, pendant les prochains jours, ce qui va nous donner un panorama, un patchwork assez complet de la destination, en tout cas pour une première fois en Nouvelle-Calédonie.
Le tout servira à monter 10 épisodes d'une minute chacun, diffusés sur 5 chaînes, M6, W9, Sister, Paris Première et Teva. 48 diffusions au total qui toucheraient environ 5,7 millions de téléspectateurs selon les estimations de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Un impact donc important avec un enjeu double, attirer des touristes mais aussi redorer l'image de la Nouvelle-Calédonie.
Il y avait aussi l'idée de se dire, voilà, venez, là, ici, il y a un potentiel touristique complètement dingue. Et c'est vrai que l'image médiatique qu'on a reçue, nous, en tout cas, depuis la métropole, faisait un peu peur. Et en fait, voilà, nous, là, on va avoir un rôle pédagogique, je pense, c'est de se dire, voilà, venez, on vient de le vivre dans des conditions complètement dingues. À votre tour, quoi, venez, sans crainte. Je pense qu'on va aussi beaucoup alimenter les réseaux en rassurant un peu tout le monde. On va répondre à beaucoup de questions. Et voilà, et j'espère qu'on va réussir aussi à montrer que c'est un pays safe. Et déjà en les rassurant et en montrant de belles images, des rencontres enrichissantes, je pense que voilà, on a déjà un joli premier pas, quoi. Reste à mettre le deuxième dans l'avion et venir jusqu'ici.
Stéphanie Valton et Julien Kiriuel quittent la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Ils prépareront ensuite 10 épisodes de leur émission La Minute Voyage, qui seront diffusés entre le 1er et le 14 décembre, également accessibles après ces dates gratuitement sur la chaîne YouTube de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
Merci Charlotte Coulson. Il est 6h56. On va marquer une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive et notamment l'équipe de France qui joue ce matin en match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de football. C'est face à l'Islande.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vos agendas 2026 sont disponibles dès maintenant chez Bureau Vallée à partir de 175 francs. Avec les agendas semainiers Quo Vadis, profitez d'une mise en page claire, d'une organisation pratique et d'une fabrication française au service des pros.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
EIM, votre spécialiste de l'équipement de manutention à la location ou à la vente depuis 1987. Besoin d'un groupe électrogène, un élévateur, une tour de lumière ? EIM, c'est des marques à des prix compétitifs et un SAV de qualité. EIM, 21 rue Henri Simonin à Ducos. Plus d'infos sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la France qui peut se qualifier dès ce matin pour la prochaine Coupe du Monde de football. Ce sera en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Bleus sont en tête après leurs 3 victoires en poule, dont la dernière ce week-end, 3-0 contre l'Azerbaïdjan. Les hommes de Didier Deschamps qui affrontent l'Islande depuis 5h45 du matin à Reykjavik. Pour décrocher la qualification dès ce matin, les Bleus doivent non seulement s'imposer, mais également espérer que l'Ukraine, deuxième du groupe, ne batte pas l'Azerbaïdjan à Cracovie. Il y a pour l'instant un but partout dans la rencontre entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Et le match qu'on attend tous, c'est donc Islande-France et les Français qui sont menés 1-0. Un but inscrit juste avant la pause, la mi-temps. On joue la 52e minute de jeu. De son côté, l'équipe de France Espoir a battu l'Estonie 6-1. Et ça, c'était en qualification à l'Euro. Le sport toujours avec du basket et le début hier aux îles Salomon de la Melanesian Cup pour la sélection calédonienne féminine. Face aux Salomonaises, les Calédoniennes se sont imposées 63-30. Prochain match pour les filles, ce sera face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis à partir de 16h aujourd'hui, c'est la sélection messieurs qui fera son entrée dans la compétition. Les Calédoniens rencontreront les îles Salomon.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Avec plaisir. Ce matin, le soleil dominera sur l'ouest malgré un voile de nuages élevé. Ailleurs, les nuages seront plus présents et donneront quelques averses, notamment sur le sud-est. Sur la façade est et au loyauté, le vent, donc pour ce matin, orienté est à nord-est entre 5 et 10 nœuds, il sera variable faible. Sur l'ouest, il sera souvent faible en début de matinée et reprendra de secteur sud entre 5 et 10 nœuds. Ensuite, cet après-midi, le temps deviendra plus humide, les nuages prendront souvent l'avantage. Le relief se chargera de gros nuages et de bonnes averses qui se produiront. Elles déborderont ensuite vers les côtes, principalement sur la côte est. Sur l'ouest, l'Alizée, on parle du vent bien sûr, orienté sud-sud-est pour cet après-midi entre 10 et 15 nœuds au nord. Ailleurs, il sera faible localement entre 5 et 10 nœuds au Loyauté. On termine par les températures. Elles sont comprises entre 27 et 30 degrés en général et jusqu'à 31 voire 32 degrés. Et ce sera bien sûr sur l'ouest.